Il est tout juste midi sur France Culture. Bonjour à tous. Comme chaque jour, dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, les titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Après la triple attaque suicide avant-hier dans l'aéroport d'Istanbul qui a fait plus de 40 morts et près de 240 blessés, la police turque arrête ce matin 13 suspects, dont 3 étrangers. Le Premier ministre affirmait hier soir que les indices pointaient vers Daesh et le chef des services de renseignement américain affirme de son côté être très inquiet de voir que la machine terroriste générée par l'EI, l'État islamique, a beaucoup d'élan encore aujourd'hui. Fin de citation. Les 2 lanceurs d'alerte français à l'origine des révélations sur les généreuses pratiques fiscales du Luxembourg ont été condamnés hier à la prison avec sursis par un tribunal luxembourgeois dans le procès LuxLeaks dont nous parlera tout à l'heure Marie-Pierre Véraud. En France, malgré les 2 amendements qui ont été proposés hier par le gouvernement, la CGT et Force ouvrière décident de poursuivre la contestation sur le projet de loi travail. L'hypothèse donc d'un nouveau 49-3 fait son chemin malgré un dialogue qui a été renoué donc hier entre Manuel Valls et les syndicats. Et puis François Hollande qui prend peu à peu le costume du candidat à sa succession. Long entretien aux Échos ce matin, le chef de l'État estime que les programmes économiques de la droite paraissent inadaptés à la situation de notre pays et éminemment dangereux, je cite, pour notre modèle social. L'invité du journal tout à l'heure, ce sera Jean-Richard Soulzer, conseiller régional Front National des Hauts-de-France. Voilà pour les titres. C'est à vous Caroline, la Grande Table.
Avec un invité unique pour cette avant-dernière de la Grande Table, qui mieux que personne, cet invité unique a toute sa vie durant défendu une spécificité française, l'alliance de l'homme de lettres et de l'homme d'action, de la littérature et de la politique, un homme qui voit la nostalgie comme un défi, qui ne lit pas les mots révolutionnaires et conservateurs comme antinomiques, et qui à ce titre, sans le savoir, ni même l'avoir voulu, peut être considéré comme un compagnon de route de cette émission qui a toujours voulu mêler la culture et les idées, et dont le mot d'ordre est depuis 6 ans, la culture pense le monde et les idées font partie de la culture. Il vient de publier ses écrits littéraires, écrits entre 1963 et 2016, dans la grande tradition des carnets de route, et dans une semaine, il participera au 30e rencontre de Pétrarque sous le Tilleul qui lui est bien plus vieux. L'occasion de parler avec lui de l'état du débat d'idées en France, mais ça sera pour la 2e partie. Bonjour Régis Debray.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table.
Bientôt je serai comme d'autres. Mon tour viendra aussi. Mais les idées des communistes cubains resteront.
La lutte existe, existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes.
No daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda.
J'ai complètement quitté les milieux bourgeois et les institutions bourgeoises. En principe, non, je suis totalement opposé à toute forme d'institution et de gouvernement bourgeois.
On voit bien ce qu'on est devenu au cours de la vie, quels événements ont marqué. Mais ce qui se dérobe toujours, ce qui reste plus ou moins voilé, c'est ce qui a pu catalyser ces événements, c'est ce quelque chose qui a fait que la vie mentale a pris telle ou telle tournure.
Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel.
Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Régis Debray, vous avez reconnu ces voix ?
Oui, bien entendu, elles sont émouvantes. Elles correspondent chacune à un aspect de moi-même et pour la dernière, à un aspect de la France.
Fidel Castro, Che Guevara, oui. Allende, oui. Sartre, André Breton, Michel Foucault et effectivement François Mitterrand. Mélange de voix politiques, de voix philosophiques, de voix littéraires, c'est ce qui réunit ces carnets de route finalement.
Ce mélange est dangereux, vous savez, la littérature d'idées n'est pas la meilleure. La littérature d'idées se fait avec des écriveurs, comme disait Audiberti, ou des écrivains, comme disait Barthes. pas avec des écrivains. Et donc, et bien sûr, j'ai fait parfois de la littérature d'idées, des livres, des brochures, des plaquettes, pour intervenir, comme on dit, en tant qu'intellectuel. Mais quand je suis écrivain, je ne suis plus un intellectuel. Alors c'est vrai que ce carnet de route, c'est 50 ans d'écriture à la première personne, donc d'écriture d'écrivain. Le style, c'est l'homme, et l'homme, c'est le style aussi. Le style est l'empreinte d'un homme, alors que pour faire de la philosophie ou de la politique, mieux vaut le faire sans style pour se faire comprendre. Donc ne pas mélanger les textes de jouissance qui sont ceux d'un écrivain et les textes de connaissance ou d'intervention qui sont ceux d'un intellectuel. Alors, ce carnet de route, ça a effacé l'intellectuel, et tant mieux. J'ai tout de même 50 ans par devers moi d'activité, j'allais dire, très personnelle, très intime. J'ai commencé en 63-64 et j'ai fini, enfin...
Vous avez fini. Bah, oui. Il a fallu mettre un terme au livre.
Fini avec Madame Marge, ça fait tout de même 50 ans. Alors ça fait un peu pervers polygraphe, hein, tâcheron énorme. Mais encore une fois, j'ai toujours cloisonné, si vous voulez, l'écriture vraie, où on ne pense pas à gagner, où on ne pense pas à s'imposer, mais simplement à trouver le ton juste. Et puis, l'écriture qui se veut efficace, sociale, politique, où il s'agit de l'emporter sur un adversaire. Ce qu'il y a de bien dans la littérature, c'est qu'on n'a pas envie de gagner. On a simplement peut-être... envie d'extraire du chaos une sorte de forme qui peut durer. Autrement dit, on peut perdre en première instance, c'est-à-dire personne n'achète votre livre, et puis essayer de gagner en deuxième instance.
C'est la postérité qui fait la grandeur d'une œuvre ?
La postérité, c'est embêtant parce qu'elle est assez imprévisible. Au fond, on ne sait jamais l'œuvre qu'on fait, vous savez. On ne sait jamais l'œuvre qu'on fait. Et souvent,
on ne reste pas assez longtemps pour voir si cette œuvre dure.
D'abord. Mais ensuite, on se trompe soi-même. Regardez, Chateaubriand était persuadé qu'il allait rester avec les Natchez ou avec un essai sur les révolutions, un peu comme Benjamin Constant qui a écrit un livre sur l'histoire des religions en 3 volumes, qui était sa grande œuvre et que personne ne lit plus. Il considérait Adolphe comme vraiment une parenthèse... une toute petite chose, et c'est Adolphe qui reste, et c'est les mémoires d'outre-tombe qui restent. Donc on peut se tromper sur soi-même, la postérité se trompe moins, mais vous savez, elle peut aussi changer d'avis, la postérité. En tout cas, c'est un inconnu, faut pas trop y penser, sinon ça devient un peu, comment dirais-je, un peu prétentieux.
Et un paradoxe, à vous écouter parler à Régis Debray, c'est que, effectivement, ces écrits sont réunis à la première personne du singulier. Vous avez tour à tour écrit des récits, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre. Vous êtes polémiste, épistolier, critique, dramaturge, même librettiste, puisqu'il y a un livret d'opéra qui est dans ce livre.
Pourquoi je disais pervers polymorphe.
C'est pourquoi vous disiez pervers polymorphe. Mais en même temps, à vous écouter parler, à la fois ce choix du jeu et la façon dont vous parlez de vous, on pourrait croire que c'est très autobiographique, ce que c'est, hein, puisque c'est aussi 50 ans d'un parcours, 50 ans d'une vie. Mais en fait, c'est aussi une forme de générosité quand on lit ces ouvrages. Quand on voit à quel point vous rendez hommage à des figures, c'est pas pour rien qu'on a commencé par un montage assez court, bien sûr, de ces extraits de voix. C'est des exercices d'admiration, ils sont nombreux. Pablo Neruda, Apollinaire, Aragon, Drieu La Rochelle, Garrigue, De Gaulle, il y en a plein. Et donc c'est vraiment tourné vers les autres. Donc je voudrais pas que les auditeurs pensent « Oh là là, c'est Régis Debray, moi je ».
Non, pas du tout.
Ce jeu n'est pas un jeu narcissique.
C'est moi, les autres et les autres d'abord. Au fond... L'autobiographie m'a toujours fait peur. Là, j'y étais un peu contraint pour trouver un fil directeur, mais ce que j'ai voulu faire, c'est aussi une hétérobiographie, comme dans le film que j'ai fait, c'est-à-dire me livrer à des exercices d'admiration ou de compréhension des autres. Parce qu'au fond, vous savez, on est fait de ces rencontres. Hein. Moi, je suis né du hasard de mes rencontres qui m'ont fait grandir, des passeurs, comme on dit, qui m'ont un peu élevé au-dessus de moi-même. Et voilà, je rends hommage, c'est une sorte de dette et de plaisir aussi. Au fond, ça m'arrive d'être caustique, mais j'aime pas la dérision. Voilà, et je me sens un peu mal dans notre univers.
Vous dites des passeurs, à vrai dire, quand même, il y a plus de passeurs parmi ceux que vous admirez que de passeuses. Et d'ailleurs, je me souviens, Régis Debray, d'une grande table, il y a 3 ans, avec Marin de Viry, François Cusset et Hervé Le Tellier autour de cette table, commentant la sortie de vos modernes catacombes. C'était une méditation sur ce qu'est la littérature, déjà à travers une série de figures exemplaires. Et dans la bouche de ces 3 commentateurs autour de la grande table, le mot, à votre propos, viril, revenait le plus souvent. Pourquoi il y a si peu de femmes dans vos admirations littéraires, politique et philosophique?
D'abord, tous mes romans tournent autour d'un personnage de femme. Et puis, pour le reste, il y a une certaine pudeur et peut-être aussi laïcité, comme on dit, séparer d'instinct le privé du public. Écoutez,
étaler... Mais les femmes publiques, je ne parle pas de vos femmes.
Ah bon?
Ah ben non. Alors, je ne parle pas de vos femmes.
Je parle de Simone Veil,
des femmes écrivains, des femmes philosophes, des femmes politiques... Qui ont construit aussi cette histoire qui est la nôtre et qui sans doute est la vôtre depuis 50 ans.
Bon, c'est vrai qu'une certaine culture héroïque ou une certaine histoire romanesque ou légendaire tourne autour de figures masculines, c'est vrai. L'arrivée des femmes dans la vie publique est assez récente. Et le roman national est assez ancien. Donc, à part Jeanne d'Arc et Charlotte Corday, il y a assez peu de personnages. Il y en a de plus en plus. Et les femmes sont en train de prendre le pouvoir, que ce soit... Même à l'extrême droite, figurez-vous.
Il paraît.
Vous voyez, c'est tout de même... L'extrême droite, c'était botté et casqué par définition. C'était l'apothéose de la virilité. Regardez, en France et en Allemagne, les 2 leaders sont des femmes. C'est un indice important d'un basculement, je pense, de valeurs masculines ou de valeurs féminines, si vous voulez, recadrées, reconverties, mais féminines tout de même. Il y a une féminisation du monde. Alors, certains s'en plaignent, moi pas. Mais ma vie personnelle, c'est un peu d'avant.
On attend le 2e carnet de route dans les 50 ans à venir.
Oui. Alors disons qu'on se donne rendez-vous en 2057, allez.
Voilà, bon, en attendant 2057,
s'il vous plaît,
je le note.
Agenda.
Mais on va du coup revenir.
Vous n'allez pas me faire faux bon, hein, en 2057.
J'espère.
Compte sur vous, Caroline.
Pas faire faux bon. Mais on va revenir du coup 50 ans en arrière, si vous le voulez bien, avec l'un des écrivains pour lequel vous avez le plus d'admiration, peut-être même d'affection, parce que vous connaissiez l'homme, vous aimez sa littérature, vous aimez également sa discrétion. Je vais parler de Julien Gracq. Écoutez-le, en 1950.
Dans un roman, tout compte. C'est extrêmement frappant. C'est pour cela que le roman peut rivaliser, dans une certaine mesure, de richesse avec la vie. C'est-à-dire, dans la vie, on voit énormément de choses, beaucoup plus que dans un roman, mais 99% sont sans intérêt, sont même pas perçus. J'ai pris souvent l'expérience, si on passe dans une rue qu'on connaît, on ne perçoit pas les maisons. Mais si on dit dans un roman, le personnage passa devant une maison avec des volets verts dont une fenêtre était ouverte, c'est enregistré, c'est une maison où il va se passer quelque chose, où il s'est passé quelque chose, on y reviendra. Enfin, il y a une sonnerie d'alerte qui se déclenche et rien n'est indifférent. Alors, le romancier dépose constamment... Mais sans en rendre compte, il dépose constamment des avertissements, enfin des incitations à l'imagination du lecteur, dont il ne sait absolument pas s'il pourra les combler, parce qu'en fait, il ne sait même pas quelles sont ces incitations, si vous voulez. Et alors là, il travaille un petit peu dans la nuit, il faut bien le dire. C'est ce qui fait que c'est un travail épuisant, je dois dire, oui, ça demande une grande consommation d'énergie, et puis c'est un travail quand même à l'aveuglette. Ça demande, en fait, pratiquement, ça fait appel, oui, au flair, à l'instinct. Et en réalité, j'ai toujours eu le sentiment, pour ma part, jusqu'au dernier moment, que le livre pouvait très bien, et c'est arrivé une fois, avorter, et ne pas aboutir du tout. Alors, c'est une entreprise qui est redoutable, pour moi, enfin, qui est un peu tout à fait à l'écart des autres. tout à fait à l'égard de l'essai, par exemple.
Régis Debray.
Écoutez, oui, c'est très émouvant. Pour Gracq, n'est-ce pas, le roman est un récit où tout se tient et qui doit se tenir à l'écart du réel immédiat, quitte à l'évoquer indirectement par suggestion. Le rivage des Sirtes, par exemple, il l'a dit une fois, il évoque l'esprit de l'histoire, comme on dit l'esprit de vin, mais c'est aucune histoire en particulier, n'est-ce pas? Donc, il y a là un idéal de perfection que je suis loin d'atteindre, mais auquel il a essayé de me raccorder à la fin de sa vie, parce que je crois qu'on s'aimait bien.
Voilà. Vous parlez de littérature ensemble? Pas être tout.
Écoutez, Gracq était quelqu'un de totalement contraire à l'image qu'on s'en faisait. Il avait un aspect de colonel un peu à la retraite, un peu ronchon, comme ça. Mais en fait, il était extrêmement drôle, ouvert, disert, et ne ratait rien de son époque. Toujours devant la télé le soir. Mais il avait écouté un opéra peu avant, et puis il jetait un regard sur l'équipe. Donc c'est pas du tout le ronchon. Je crois que c'est la ronchonnerie, c'était ça, son autodéfense, si vous voulez. Hein, c'était un petit rempart qu'il faisait, mais il était au fond ce solitaire était très sociable. Et quand on était dans sa société, on avait l'impression de redécouvrir le monde parce qu'il détachait, n'est-ce pas, il mettait en relief l'actualité, si vous voulez. C'est-à-dire que tel événement lui rappelait un épisode de la République romaine, tel autre un épisode de la cour de Louis XIV. Donc tout devenait très plein de sens et de saveur surtout. Mais évidemment, le coup de pistolet dans le concert, qu'il n'admettait pas, je m'y suis parfois laissé aller. C'est-à-dire l'allusion à l'histoire plus ou moins immédiate ou à l'histoire réelle. Lui, il recomposait le réel pour trouver la vérité du réel, ce qui est la seule façon de faire.
Pour faire ce carnet de route, ces écrits littéraires qui sont les vôtres depuis 1963, Régis Debray, est-ce que vous avez, par exemple, relu vos écrits d'antan, vos premières œuvres qui datent d'une époque où vous aviez une vingtaine d'années, hein, les premières 62, 63, vous étiez quand même tout jeune.
Vous savez, on ne trouve pas sa voix tout de suite, on n'est pas artiste à 15 ans, disait Malraux, et c'est vrai. Et donc... À 15 ans ou à 18 ans, j'écrivais comme les livres que je lisais. Alors quand on lit Steinbeck ou Dos Passos, on écrit un peu comme eux. Il faut du temps. Il faut du temps pour devenir jeune. Hein. Moi, j'ai mis tout de même 60 ans pour devenir jeune. Mais en littérature, pour trouver sa voix, V-O-I-X, Il faut prendre de la distance avec ceux qu'on imitait inconsciemment. Alors c'est vrai, mes premières nouvelles, j'en avais écrit beaucoup, mais elles ont été perdues, figurez-vous. C'est bon, mon ami Claude Durand, j'en avais remis 5 en 63. Il en est deux, il y en a deux dans le. Alors qui raconte des histoires un peu sinistres, sur un mode réaliste à l'américaine,
c'est-à-dire... Un jeune homme à la page, déjà.
Un jeune homme à la page, c'est-à-dire la difficulté des rapports amoureux avant Madame Simone Veil, c'est-à-dire avant l'interruption de grossesse.
Les années 70.
Autorisée. Et puis je raconte, enfin... Je transpose une traversée désastreuse des États-Unis d'Amérique que j'ai faite personnellement en 61, où j'ai fait de l'autostop pendant 15 jours pour descendre de New York à Miami. Et là, j'ai vu des choses horribles, horribles. J'ai vu le racisme, j'ai vu la brutalité, On dépend souvent des hasards d'une première rencontre, hein, comme avec une femme ou un homme. Et là, j'ai raté ma rencontre avec ce pays. D'abord, j'arrive à New York le 4 juillet. C'est pas bon. Je vais dans
pas un, n'importe quel jour pour les États-Unis.
C'est malheureux. New York est vide. Je vais dans un YMCA où je vois des pratiques homosexuelles qui n'étaient pas les miennes, qui m'ont un peu choqué. À l'époque, on était un peu pudibond. Puis ensuite, je vais à Coney Island. Il faisait très chaud. Et là, à Coney Island, qui est la plage populaire, tout s'écroule pour moi. Parce que pour moi, les Américains, c'était James Stewart, c'était Clark Gable. Et tout d'un coup, je vois une multitude de monstres des deux sexes. Obèse, difforme, je lui dis, mais c'est ça l'Amérique? Voilà, parce que moi j'avais été éduqué par le cinéma américain, donc je tombe tout d'un coup dans le réel, ça m'a fait un coup. Bref, donc ces premières nouvelles, elles sont un peu naturalistes, un peu sociales, disons. Mais enfin, ça me...
Vous ne les reniez pas?
Bien sûr que non. Je ne renie rien de ce que j'ai fait.
Quelques années plus tard, quand même,
On trouve son ton,
par exemple, en 1977. En tous les cas, certains jurés d'un prix, le prix Femina, ont trouvé que vous aviez un ton. Le ton, le style, le caractère, la manière, ce sont souvent vos mots pour parler de littérature, d'ailleurs. La neige brûle a eu le prix Femina en 1977. Vous aviez, pour vous, trouvé ce ton, cette voix littéraire?
Oui, je commençais à la trouver. Elle n'était plus crispée, elle n'était plus allusive. Elle avait tout de même des petits clins d'œil, par exemple Flaubert. Bon, mais oui, je crois que je commençais à savoir qu'un récit n'est pas un essai. Un récit n'est pas là pour démontrer, ni d'ailleurs pour choquer ou surprendre. Un récit est là pour communiquer une émotion. Au fond, pour moi, la littérature, c'est l'émotion. Et l'émotion, ça suppose qu'on cherche ses mots, qu'on travaille ses mots, qu'on s'invente une musique. Bref, il faut un peu se laisser aller pour trouver l'émotion. Faut se débarrasser de son intelligence. Au fond, le grand ennemi du romancier, c'est l'intelligence.
Est-ce que vous nous liriez les premières pages, le chapitre premier, enfin les premières lignes du chapitre premier de La neige brûle, Régis Debray?
Écoutez, ça me gêne un peu.
Pour qu'on entende la musique.
Ça me gêne un peu, mais je vais y aller puisque vous me le suggérez, vous me l'imposez. Mais j'y vais, de bon cœur. Donc, c'était à Miramar, faubourg de La Havane, dans les jardins d'un grand hôtel. Petit clin d'œil, vous l'avez compris.
Ah mais ne faites pas d'incise, il faut qu'on entende la musique.
C'était à Miramar, faubourg de La Havane, dans les jardins d'un grand hôtel. Quant au jour et à l'heure, je laisse aux astrologues le soin de les retrouver. Ils auront du mal. Les signes du zodiaque nous boudèrent dès le début. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne vois qu'une mer étale, léchant sans conviction les contreforts d'une terrasse de lauriers roses et de palmiers. J'entends encore ces gargouillis entre les rochers qui s'amoncellent en contrebas de la digue à l'extrémité de la baie face aux vieilles pierres blondes d'un fortin espagnol. Ce ressac nonchalant fait un bruit de fond sans âge. Le froufrou des palmes n'est pas non plus un bon repère. La vie était là, simple et tranquille. Elle doit y être encore. Elle y sera toujours. Indifférente comme les cocotiers, ses plumeaux géants fichés par le manche en plein gazon.
Il y a, Régis Debray, beaucoup de passé dès ses premières lignes. Or, bien sûr, une époque passée, c'est aussi l'un des points communs de l'ensemble de ses écrits, aussi bien dans les personnalités à qui vous rendez hommage que dans la façon dont vous avez d'écrire, cette manière assez classique, au fond. Et cette nostalgie ou cette mélancolie, je ne sais pas d'ailleurs si vous faites une différence entre les deux, vous allez nous dire. C'est quelque chose qui réunit aussi ces textes. La vie était là, elle sera toujours là, mais la vie était là. Régis Debray.
Oui, c'est vrai que l'évocation du passé sied à l'écrivain. Et au fond, On peut dire que il y a toujours de la nostalgie ou de la mélancolie chez un certain type, disons, romantique, d'écrivain ou de poète. Là, voyez-vous, il y a un peu de Flaubert, il y a un peu de Verlaine. Bon, la nostalgie, c'est un coup de pied au cul.
La nostalgie, c'est dynamique. Comme un défi.
La nostalgie, c'est, il faut revenir à ce qui a été plus grand que nous. Nous ne devons pas déchoir. J'ai envie de revenir à De Gaulle en 40, à Clémenceau. Bref, la nostalgie, à mon sens, incite à l'action. Et d'ailleurs, tous les révolutionnaires sont des nostalgiques. Je dirais des hommes qui ont un défi à relever, et c'est le défi de l'histoire. La mélancolie, elle est plus esthétique. La mélancolie, c'est au fond réflexion sur le temps, sur la vie. La mélancolie, c'est bon pour les effets d'écho. On peut s'y complaire. Mais une nostalgie vraie, ça force à relever le gant. Ça force à sortir de chez soi pour ne pas avoir l'impression de déchoir vis-à-vis d'un passé qui fut grand.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a Régis Debray. C'est toujours à la fois délicieux et à la fois agaçant. Il y a un côté à la fois désabusé, comme ça, un peu blasé, humble, et une agilité, des déclarations d'amour, des exercices d'admiration. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un effet de génération qu'il assume d'ailleurs très explicitement. C'est-à-dire que c'est un éloge de la virilité intellectuelle. Oui. Et littéraire. C'est-à-dire, ce qu'il aime, c'est les gens « bigger than life », comme on dit en anglais. Et ce qu'il aime, ce sont ceux qui ont à la fois trempé dans la littérature et dans l'action historique, l'héroïsme, l'histoire, quoi. C'est ça qui est terminé, et c'est ça que regrette, avec un ton assez savoureux, Régis Debray, je trouve. Je fais pas de pari là-dessus, mais l'ironie et les paradoxes de la postérité littéraire et intellectuelle, c'est que peut-être que dans 50 ans, on relira et on se souviendra de Louez soit nos seigneurs, qui est un fabuleux portrait en miroir de ces deux grands chefs en figure paternelle que sont Fidel Castro et François Mitterrand, et qu'hélas, pour Régis, on aura peut-être oublié ces grands textes de médiologie. Voilà, ironie de la postérité, on ne sait pas ce qui marquera. Ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, les dispositifs d'inscription dans la durée, eux, ont changé. C'est d'ailleurs un des thèmes de la médiologie. Et que pour durer, il n'y a plus de technique. On est un peu perdu, quoi, de nos jours, pour savoir comment marquer son temps.
C'était François Cusset, donc l'essayiste, à la grande table en 2013, à un moment de la sortie de Moderne Catacombe. Régis Debray.
Comme c'est intelligent et comme c'est perspicace. J'aime bien ce ton à la fois ironique et un peu affectueux, oui. Non, il a sans doute raison. Vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Quand vous faites une théorie de la transmission, c'est la médiologie, vous savez pas bien transmettre. Et puis il est vrai que les textes de connaissance ont la vie plus courte que les textes de jouissance. C'est-à-dire que les essais, les pamphlets, les chroniques et même les livres de philosophie, contrairement à ce qu'on pense, ont un temps de vie assez court, alors que les poèmes résistent.
Régis Debray, ce carnet de route comporte une couverture qui est une image qui nous emmène loin, qui nous emmène en voyage. C'est vraiment un carnet de rencontres, mais aussi un carnet de route. Vous avez aimé voyager. C'est aussi l'idée que la littérature est un voyage, que ce recueil est une promenade. Et donc, on aimerait, pour terminer cette première partie, vous offrir et offrir aux auditeurs et nous offrir une chanson qui, je suis sûre, va vous plaire, non seulement parce qu'elle est chantée par une Argentine fort connue, fort importante, qui est morte en 2009, que cette chanson est une petite merveille et qu'elle est doublement interprétée par Mercedes Sosa et John Baez, qui est en photo dans ce carnet de route.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Restez avec nous, Régis Debray, pour la deuxième partie de
Volontiers.
Régis Debray, écrivain. Nous passerons à Régis Debray, intellectuel, puisqu'il s'agira de regarder, d'observer 30 ans de débats, d'idées en France. Il est 12h30 sur France Culture.